Henri de Régnier, La double maîtresse, deuxième partie, chapitre 7. Chaque matin, le carrosse vide de Monsieur de Portebise s'arrêtait à la grille de Mademoiselle d'Amberville, où Bourgogne et Basque venaient régulièrement chercher leur maître. Depuis le soir du souper, ils n'étaient pas sortis de chez la danseuse. Vers midi, il faisait dire à ses gens de s'en retourner et de ne point manquer d'être là le lendemain. Les deux drôles, qui, depuis 2 heures, bavardaient avec le portier, décampaient donc. Mais, au lieu de monter derrière la voiture, ils s'installaient commodément à l'intérieur sur les coussins et se faisaient tranquillement ramener à l'hôtel comme des personnes de qualité. Ils avaient averti M. Laverdon, quand il vint, comme de coutume, pour coiffer M. de Portebise de son aventure amoureuse et, par les soins de M. Laverdon, la chose se répandit vite en tout lieu. Certes, Mademoiselle d'Amberville n'en était point à sa première frasque. Elle mettait à ses amours une liberté hardie. Mais le bruit de son dernier choix était redoublé par l'esclandre qu'en faisait partout M. de Gurcy. Le chevalier promenait sa fureur et ne décolérait pas. Il éclatait en invectives contre M. de Portebise, qui l'accusait d'ingratitude, et contre Mademoiselle d'Amberville, dont il maudissait le procédé. D'heure en heure, il accablait l'infidèle de lettres furieuses et griffonnées qui restaient sans réponse. Chaque jour, il venait rafraîchir sa colère sur le lieu même de son déshonneur, et il l'emportait avec lui toute nourrie d'une force nouvelle. Malgré ses cris et ses tempêtes, la grille de la maison de Chaillot demeurait obstinément fermée. En vain, il parlementa avec le portier, de qui ni son tapage ni ses menaces ne pouvait tirer autre chose, sinon que Mademoiselle d'Amberville avait donné l'ordre de ne laisser pénétrer qui que ce fût. M. de Gurcy enrageait en vain. Quand il était là de crier et de montrer le poing à son rival invisible, il s'épongeait le front et s'asseyait sur une borne, d'où un sursaut de jalousie le relevait brusquement d'un bond, et il recommençait à geindre et à hurler. Cela dura presque une semaine. Le plus beau, c'est qu'à force de rencontrer là Basque et Bourgogne, qui y venaient à la même heure, il avait fini par les prendre pour confidents de son infortune. Basque surtout lui plaisait. Il avait une longue mine maigre et goguenarde et écoutait avec respect les doléances du chevalier qui ne tarissait pas en injures contre M. de Portebis. Basque et Bourgogne semblaient entendre avec un muet plaisir leur maître traité de vilain, de gueux et de voleur. Il s'en poussait le coude aux bons endroits et ricanait tout bas. M. de Gurcy s'emportait davantage. Le portier derrière la grille riait tout haut, le cocher de son siège se tenait le ventre. Quelquefois, des passants, croyant à quelque querelle de valets en ribote, voulaient s'interposer et appeler le guet. Le cocher les rassurait, se touchait le front du doigt et faisait comprendre aux curieux que l'énergumène avait la tête dérangée et la cervelle à l'envers. « Oui, Basque, ton maître est un pandard !» hurlait M. de Gurcy. « Oui, Bourgogne, un malotru, retiens bien cela et fais-en ton profit. Et pourtant, je l'aimais, ce garçon. Il me plaisait, et voilà comment il me récompense. Il me voit ivre sous la table, me prend ma maîtresse et me fait fermer sa porte, et tout cela sans même me prévenir. Et pourtant, je l'aimais, ce drôle, et je vais être forcé de lui trouer la peau en 20 endroits et d'aller avec lui sur le pré. » Monsieur de Gurcy prenait alors un visage de circonstance. « Regarde bien, Basque, » continuait-il, « et toi, Bourgogne. Attention. On arrive sur le terrain. On met habit bas. Les épées sont de même longueur. Je me fends. Il part. Je riposte. Il rompt. Je me fends. Je l'atteins. Il tombe. Le médecin se penche. Monsieur de Portebise est mort. « Ah, il est mort, monsieur de Portebise. Eh bien, sur ma foi, je le regrette, monsieur. C'était un bon compagnon, et voilà ce que c'est que de nous. Et tout cela, vois-tu, Basque, pour une demoiselle d'Amberville. » Et le chevalier montrait le poing à la petite maison qu'on apercevait derrière les arbres, au bout du jardin gelé, qui scintillait de givre au soleil et semblait rire au nez de l'amant congédié. « Est-ce que j'y tenais à cette d'Amberville ? » reprenait monsieur de Gurcy. « Est-ce que cela m'amuse de faire la bête à sa porte ? Pourquoi ce maître sot ne m'a-t-il pas dit Gurcy. Mais non, il m'a traité par trop sans façon. Sans cela, je la lui aurais cédée de mon cœur. Je l'ai eue tant que j'ai voulu, et tout mon soûl. » Basque et Bourgogne hochaient la tête en guise d'assentiment. « J'en ai assez de ses soupers et de son lit. Crois-tu, Bourgogne, que cela m'amuse de m'asseoir à sa table entre un vieil abbé obèse et un faquin de garonnard qui ressemble à un épouvantail à moineaux, de subir les plaisanteries de cet imbécile de Clercilly et d'écouter les tirades de M. de Bercherolles? Ah, les voyages de M. Parménil et les histoires de Lapone et de Chinoise. Je préférerais encore Saint-Bérin. Il joue le fat et le joli cœur pour plaire aux dames et leur débite ses fadaises. Mais au moins, il s'y connaît en chevaux et sait distinguer une jument d'un étalon. Il fait semblant de respirer des roses, mais au fond, il n'aime que l'odeur du crottin. Tu me demandes, Basque, pourquoi je restais dans cette pétaudière ? » Basque ne demandait rien du tout. Il se grattait le bout du nez selon son habitude et écoutait avec patience la jérémiade du chevalier. « Ce que j'y faisais, tête d'âne, j'étais l'amant de Mademoiselle d'Amberville. Tu ne sais pas ce que c'est d'être l'amant de Mademoiselle d'Amberville. Ton gueux de maître le sait maintenant. Il a dû l'apprendre depuis le temps qu'il est enfermé avec elle. Tiens, il me semble que je lui en veux moins, le pauvre diable. Non, je ne lui en veux pas du tout. Non, vraiment, il sortirait là par cette grille que j'irais à lui. Eh bien, malheureux porte-bise, comment te voilà fait ? Ce visage long d'une aune, cette mine déconfite, te voici maintenant plus traitable. Nous pouvons en causer. Ah, la belle affaire, mais parle donc. Sa gorge est jolie, hein, mais le reste. Ah ah, elle a les bras maigres et les cuisses dures. Elle n'est plus toute jeune, mon amie, notre d'Amberville. Elle a la bouche âcre et la peau sèche. Ah, porte-bise, tu l'as voulu. » Puis sa colère reprenait de plus belle. Mais sors donc de là. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Sors donc! Allons, il ne sortira pas aujourd'hui encore. Ils n'en auront donc jamais fini. » Et cela durait jusqu'à ce qu'un laquais vint dire un mot à travers la grille à Basque et à Bourgogne et les congédier de la part de leur maître. Le chevalier écoutait, les poings serrés. Il avait les habits en désordre et la perruque de travers. « Allons, monsieur le chevalier, disait Basque, nous partons. Ce ne sera pas encore pour aujourd'hui. » « Monsieur le chevalier veut-il qu'on le remette quelque part ? Car vous voilà ici à vous morfondre à pied sans vos gens et dans un état à ce que l'on vous suive par les rues. » Dans la voiture, M. de Gurcy recommençait à se lamenter. « Ah, les gueux, s'en donnent-ils, et jour, et nuit, j'en suis sûr. Ne crois pas ce que je t'ai dit, Bourgogne, ton maître est un heureux larron. Cette d'Amberville est charmante, et je te défends de penser autrement. » Puisqu'elle a été ma maîtresse, et quelle maîtresse, quel feu, quelle ardeur, et elle m'a trompée. Elle a bien fait, je l'ai méritée, je me suis saoulée, tant pis pour moi, elle me l'avait défendue. D'ailleurs, il faut savoir être trompé quand on aime. Je lui demanderai pardon, elle me reprendra. Tu ris, Marot, il n'y a pas de honte en amour. L'histoire que nous a contée l'autre soir ce gros Anglais rouge est très bien. Il a raison, il faut savoir vider le pot. Arrête-moi là, Basque. Adieu, mon garçon. » Et M. de Gurcy sautait du carrosse et s'en allait en gesticulant, portait partout sa colère et son dépit et contribuait lui-même à répandre avec fracas sa fameuse aventure. Partout déjà, elle l'avait précédé. Le caprice de Mademoiselle d'Amberville pour M. de Portebise prenait les proportions d'une affaire publique. Les gazettes parlaient de l'indisposition de la danseuse. L'opéra bourdonnait. Les menus commençaient à s'émouvoir. Mademoiselle d'Amberville dédaignait les ordres les plus formels et méprisait les plus sages avis. Elle refusait obstinément de jouer. Le public la réclamait sur la scène. Le théâtre retentissait de sifflets et de bagarres. Le parterre voulait la d'Amberville et les directeurs étaient incapables de la lui donner. Les spectateurs exigeaient que le nouveau ballet annoncé des égarements champêtres remplaçât celui d'Ariane. Mademoiselle d'Amberville y devait figurer Sylvie. Aussi, sa présence était-elle indispensable. Rien ne pouvait vaincre sa rébellion, ni les menaces, ni les amendes. La chose en vint au point que l'opinion réclama le châtiment de l'opiniâtre, et on se décida pour la satisfaire d'enfermer la demoiselle d'Amberville au fort l'évêque. Ce fut un matin que, couchée avec M. de Portebise, Mademoiselle d'Amberville entendit heurter à sa porte au nom du roi. Elle alla ouvrir elle-même en galant appareil. À l'exemple qui lui signifiait l'ordre de la suivre, monsieur de Portebise, réveillé en sursaut, voulut protester. Mais mademoiselle d'Amberville le fit taire et le força à se recoucher. « Monsieur n'a rien à voir là-dedans, » dit-elle à l'homme de police. « Quant à vous, monsieur l'exemple, je vous attendais, mais je ne doute point que vous ne me donniez le temps de dire adieu à ce gentilhomme qui est là et d'ajouter à cette chemise où vous me voyez de quoi paraître aux yeux de vos gens et des miens. » Lorsque l'exemple se fut retiré, mademoiselle d'Amberville éclata de rire au nez de monsieur de Portebise. Elle s'était assise au bord du lit et regardait la mine déconfite du jeune homme. « Eh bien, mon cher amant, lui dit-elle, voilà donc où nous en sommes. Je dois reconnaître que vous avez été parfait. Vous avez fait mine de chercher votre épée, mais rendez-moi grâce de vous avoir remis sous les draps. Vous n'avez pas à montrer en chemise ce que j'ai à faire revoir. Et maintenant, mon cher cœur, trêve de plaisanterie et écoutez-moi. » Elle avait posé une main sur le drap et de l'autre, elle jouait avec son pied blanc et musclé. Une boucle défaite lui caressait l'épaule. « Je vous dois d'abord un remerciement. Vous m'avez fait passer une semaine fort agréable et j'espère que pour votre part, vous ne la regrettez pas trop. Votre jeunesse n'est point avare d'elle-même et, à la façon dont vous m'avez traité, vous ne m'avez point fait apercevoir que la mienne fut déjà l'aînée de la vôtre. Si, malgré votre bonne volonté, vous ne valez pas Gurcy, vous le surpassez en délicatesse. À vous deux, vous êtes parfaits et faits pour vous entendre, ce qui ne manquera pas, car je ne doute point qu'il vous pardonne, quand il saura que tout de même, vous ne l'avez pas fait oublier. De telle sorte que nous tirerons tous les trois profit de cette aventure. Notre chevalier apprendra par là, une fois de plus, qu'on peut se passer de lui. Le voilà donc averti, vous voici célèbre, et je vais aller en prison. C'est ce triple but que je cherchais. Maintenant, monsieur, vous aurez le choix entre toutes les femmes. Elles se disputeront vos faveurs qui seront des grâces. Quant à moi, j'ai mon fort l'évêque. » Monsieur de Portebise regardait mademoiselle d'Amberville avec stupéfaction. « Il me le fallait, monsieur, et je vais vous en apprendre la raison. Vous connaissez cette petite Fanchon de l'abbé Hubertet. Elle montre pour la danse des dispositions surprenantes et même des talents admirables. Elle sait tout mon rôle de Sylvie dans les égarements champêtres. Elle m'y remplacera. Bercherolles s'en occupe. Sans cet heureux stratagème, jamais on ne lui aurait donné l'occasion de débuter avec un éclat immanquable. Pensez à la joie de l'abbé. Il se fait vieux et je veux qu'il ait de moi ce plaisir avant de mourir. Voilà tout, monsieur. Mais le temps presse et notre exemple doit s'impatienter. Laissez donc ma gorge en repos. « Sonnez mes femmes et embrassons-nous. Votre âge aime les aventures, et celle-ci ne peut manquer d'être de votre goût. »